Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Samuel Catio. Bonjour.
Bonjour Yves.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va. Je suis en tournée actuellement, en tournée de concert donc sur l'Ardèche, sur la Drôme et l'Isère. Et voilà, on était en concert hier au Benat et ça s'est très bien passé.
Lors de cette émission avec nous, il y aura la présence d'un observateur, Victor, de Radio Énergie, à Paris. Bonjour. Il est très timide. Hein. Voilà. Et donc, Samuel, tu es ici pour nous présenter essentiellement deux concerts. L'un le 11 août, ça sera à l'église Saint-Géraud à Saillant, avec un concert exceptionnel proposé par l'association Présage. Quelle est cette association ?
Alors Présage, c'est une association qui existe, je crois, depuis au moins 30 ans et qui a œuvré pour la sauvegarde de cette église, qui est un ancien monastère, en fait. Hein, et l'église a la particularité... Moi, j'y ai joué la première fois, je crois, il y a une quinzaine d'années. Et c'est une église qui est assez homogène. Il y a une seule travée, il y a une très bonne acoustique. Elle était assez vilaine, il y avait des badigeons du 19e siècle un peu gris, et puis là il y a eu 50 travaux grâce à cette association qui a collecté des fonds, et maintenant on peut y découvrir en partie des fresques du 15e, 16e, 17e siècle qui ont été découvertes. Donc ça sera l'occasion pour nous d'inaugurer un peu cette année avec ce concert, un retour à l'église Saint-Géraud.
Les as-tu vus ces nouvelles
Très rapidement, pas encore. Donc on va en profiter.
Représentations de vie quotidienne.
Alors de mémoire, il y a des motifs. Il y a pas mal de motifs étoilés, de voûtes célestes. Et puis on a des anges aussi. On a des saints qui sont représentés. Et là, je vais découvrir ça le 11 quand on va présenter le concert.
Je me souviens, j'avais travaillé en restauration aussi dans les fresques d'église. D'accord. Et on avait mis à jour, mais découvert plutôt une fresque sous badigeon et qui représentait des scènes de ruralité. Elle devait être du 15e siècle, et donc des scènes de champs, de paysannerie, voilà. Et donc, ce 11 août à 20h, donc, il y aura ce concert avec, musicien, Michel Godard au serpent.
Oui.
Et Ihab Radwan, qui sera...
Ihab Radwan.
Ouais. Ihab Radwan, ouais. Qui sera à l'oud et au chant. Mm-hmm. Donc, avant tout, on peut peut-être présenter ces deux musiciens qui t'accompagnent.
Alors, en fait, j'ai rencontré Michel Godard à l'abbaye de Noirlac, où j'avais travaillé à enregistrer un autre album. L'abbaye de Noirlac, elle se situe au sud de Bourges, dans le Berry. C'est une très belle abbaye cistercienne. Elle est encore quasiment entière au niveau du bâtiment. Et Michel Godard y va régulièrement et on s'est croisés en fait. On s'est croisés et un ingénieur du son était présent, nous a proposé d'improviser. Donc on avait fait 20 minutes d'improvisation. Et moi j'étais dans le démarrage de cette création, donc le jardin, ce que j'allais imaginer hein, sur le jardin. Et on a écouté ce qu'on avait fait et puis ça me plaisait bien l'idée de faire rentrer un serpent au jardin. Je connaissais cet instrument pour sa sonorité. Il a des sonorités très graves, mais aussi très aiguës. C'est un instrument du XVIe siècle qui accompagnait le chant d'église, mais qu'on trouve aussi dans les montagnes. Donc, et Michel Godard a redécouvert cet instrument il y a une quarantaine d'années. Il a créé une classe à la Philharmonie de Paris, et donc il a formé en fait des jeunes musiciens à cet instrument, qui est en fait un instrument qui est classé dans les instruments dans les cuivres, mais qui en fait ce sont deux parties de bois qui sont creusées et qui sont reliées par du cuir, par ce qu'on pensait être du cuir, et puis finalement il y a un ami à lui qui s'est formé à la lutherie de serpent, qui est aujourd'hui spécialisé, qui est en Suisse. Et ils se sont rendu compte que ce n'était pas du cuir, c'était du parchemin qu'on utilisait, qu'on en collait. Et au bout d'un siècle, ce parchemin devient du cuir. Voilà. Donc on a cet instrument de bois qui est très très beau, avec des finitions cuir. Et ça donne des sonorités qui vont être proches du tuba, parce que Michel Godard, à l'origine, il est tubiste. Et ça va chercher aussi dans d'autres flûtes traditionnelles. Donc c'est voilà. Donc moi j'ai vraiment eu envie de faire venir cet instrument et surtout Michel Godard qui en est vraiment l'initiateur. Et puis, je cherchais un joueur de oud pour toute la partie Jardin d'Orient. Et donc, il avait l'habitude de travailler déjà avec Ihab Radouane. Et donc, on s'est rencontrés aussi. Je suis allé écouter un de leurs concerts. Et Ihab, donc, réside à Sète, près de Montpellier. Et puis, Michel Godard, maintenant, il habite en Italie. Il habite au sud de l'Italie depuis quelques années.
J'imagine depuis quelques jours, vous êtes en répétition pour vos concerts.
Oui, alors en fait, ce projet a été coproduit par l'abbaye de Noirlac, donc qui est un centre culturel de rencontre. On a présenté en avant-première ce programme début juillet. Là, on était à Noirlac. Et puis là, c'est c'est la suite des concerts d'été. Donc on a joué au Benin, on sera pour deux soirs au Festival Musique en Vercors, là, dans les jours qui viennent, les 9 et 10. Et ensuite, donc, à Saillant et puis à Die, le 11 et 12 août.
Alors, pour le 12 août, à Die, au Temple, à 20h, il y aura un petit changement au niveau des musiciens, puisque ce sera Pierre Bayot au saxophone et flûte qui remplacera donc Michel Godard.
Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Bayot l'année dernière. Pierre est saxophoniste à la base, mais il s'intéresse à toutes les musiques du monde et joue beaucoup avec des musiciens en jazz et en musique du monde. Et donc, il s'est intéressé au doudouk, à la flûte arménienne, au bansuri, qui est la flûte indienne, et au ney, qui est une flûte turque. Donc, ça amène aussi tout ce côté oriental que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup faire le lien entre ma tessiture de voix, qui est plutôt associée au chant lyrique, à la musique classique, et faire ces rencontres avec d'autres cultures. Parce que je suis un adepte aussi du chant de tradition populaire, de chant oral. Et c'est un plaisir de jouer avec ces musiciens qui créent vraiment des rencontres comme ça culturelles. Donc effectivement, Michel Godard repart en Italie et donc Pierre nous rejoint. Il n'est pas loin pour un autre concert. Et c'était l'occasion qu'on présente à Die ce concert tous les trois.
Le saxophone, de quel registre est-il ?
Alors, bonne question. C'est un saxophone alto qu'il a.
Et ils sont composés de bois ou de cuivre ?
Non, là, c'est cuivre.
C'est cuivre pour le. J'avais dans l'idée de ce jardin extraordinaire et puis de cette immersion poétique, comme vous la décrivez, dans un monde végétal. Et par relation, j'ai établi que les instruments étaient de bois, donc plus proches de la nature.
La sonorité est intéressante aussi, parce que justement, c'est aussi croiser ces musiques. Et du coup, ce concert-là, on ira un peu vers le jazz aussi. La veille, Michel Godard, avec son serpent, il faut savoir qu'il joue beaucoup avec des musiciens de jazz aussi. Il joue avec Louis Clavis, il joue avec R.L. Besson, avec d'autres musiciens de jazz. Et donc, c'est un habitué du jazz et de la musique baroque, en fait. Voilà, donc on fait vraiment des croisées comme ça. L'idée étant que la musique est là pour servir un propos. Et là, on est autour du jardin, on est autour du monde végétal. Et moi, c'est cette envie que j'avais autour de ce projet qui est né en 2020. Moi, quand je ne suis pas en concert, j'ai toujours eu un jardin, un potager. Et j'y suis très souvent quand je ne suis pas en déplacement. Et là, en 2020, on a tous été un peu confinés. On s'est retrouvés avec un printemps qui était très, très beau. Et j'ai eu l'envie, à ce moment-là, étant souvent au jardin, de faire le lien avec le végétal. Et je me suis rendu compte que le végétal, c'est un monde de transmission orale également. J'ai rencontré beaucoup depuis 4 ans, donc j'ai rencontré beaucoup de professionnels qui travaillent dans ce domaine-là, des paysagistes, des botanistes, des herboristes, des jardiniers. Et quand on discute avec eux, c'est énormément de transmission orale. Le savoir-faire est écrit. Alors c'est sûr qu'il y a des écoles de formation, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par l'oral. Finalement, un peu comme la musique. Donc c'était l'intérêt de croiser ces deux mondes. Et la deuxième chose, c'est j'ai remarqué que ces gens-là sont beaucoup dans l'écoute. Un botaniste, pour trouver une plante, il va écouter les oiseaux, il va écouter les insectes et il sait qu'avec tel insecte présent ou tel oiseau, il va trouver telle plante. Finalement, donc c'est des gens qui même me disent « moi, je ne suis pas forcément très mélomane, mais dès qu'on discute musique avec eux, en fait, ils ont une oreille et ils ont une oreille très, très aiguisée, très, très entraînée. » Et donc, c'était un peu l'idée aussi de ce jardin. Et après, d'aller travailler autour de certaines plantes et finalement de se rendre compte des plantes, quand on les observe, elles ont un caractère. Elles ont un tempérament, elles ont des propriétés médicinales. Elles ne poussent pas tous dans les mêmes terrains. Elles choisissent des terrains différents. Il y a des plantes qui vont être colonisatrices dans des terrains très abîmés. Puis il y a des plantes qui vont s'installer plus tard. Donc finalement, on a des personnalités. Et c'était ça qui m'intéressait dans ce projet. C'était d'aller travailler cette personnalité du végétal et de la traduire en musique.
il y a ce texte, hein, on en parlera par la suite, mais par rapport aux musiciens, comment se sont constituées ces propositions musicales, comment peut-on les définir d'ailleurs?
Je crois que c'est un peu moi qui ai beaucoup travaillé aussi avec des musiciens indiens. En fait, ce sont des humeurs, ce sont des moods. En fait, comme je disais, chaque plante a son caractère. Et du coup, on a des plantes, bah, par exemple, si on est sur l'ortie, on est sur une plante qui est très, on va dire, très, très nerveuse. Il y a ce côté piquant dans l'ortie. On va aller sur la verveine, c'est une plante calmante. Voilà, donc, et du coup, c'était l'idée de travailler un peu cet état d'esprit, cet état dans lequel on peut être. Et j'ai découvert avec Ihab Radouan toute la poésie du monde arabe. Et c'est pareil, c'est des états. C'est des états qu'on traduit par la musique, dans des gammes mineures, des gammes majeures, avec certains accords. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Et j'avais envie aussi de travailler dans ma région, là où je suis, dans le Diwa. Donc en 2022, j'ai on va dire, organisé la rencontre à l'ancien monastère de Sainte-Croix, où il y a encore un jardin de plantes médicinales aussi. Et on s'est retrouvés pendant deux sessions, une au début de l'été et puis une au début de l'automne. Et c'est là qu'on a composé finalement tout le répertoire. Ça s'est fait très rapidement. Moi, j'avais préparé des textes parce que je suis allé puiser dans la poésie médiévale, dans la poésie renaissance. Et il y a des textes ensuite qui m'inspirent une certaine musicalité et puis qui s'apparentent aussi là aussi à certaines plantes. Donc c'est des phénomènes un peu étranges, comme si on avait des pièces de puzzle. Et puis soudainement, on provoque la situation un peu comme par magie, les pièces s'assemblent. Et elles s'assemblent très très bien. C'est comme ça qu'on a travaillé sur des bases d'improvisation et puis ensuite une construction d'une structure musicale. Mais finalement, dans ce répertoire, donc les textes sont anciens, la musique est contemporaine, elle est composée par nous trois. Et il n'y a pas d'écriture musicale, très très peu. On n'a pas de partition, on travaille d'oreille et puis ensuite c'est de la mémorisation.
Avant de continuer, nous pourrions proposer un premier passage musical. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Alors ce premier titre, il s'intitule Hymne à Dame Nature. Et en fait, le texte, c'est un Cantigas de Santa Maria qui est du XIIIe siècle. On trouve ça en Espagne. C'est une grande aventure, les Cantigas de Santa Maria. C'est Alphonse le Sage, Alfonso el Sabio, qui a fait des commandes, en fait, qui est parti dans une espèce de projet assez gigantesque, puisqu'il a... Il a embauché des centaines de musiciens, musicologues, chercheurs pour travailler, pour créer un répertoire. Il y a plus de 300 cantigas qui ont été écrits. Et il faut imaginer que c'est la rencontre entre des populations du monde arabe, du monde juif et du monde chrétien, hein, puisque à cette époque-là, en Espagne, les trois grandes religions monothéistes se rencontrent. Et donc, il y a vraiment des échanges. Donc, c'était vraiment cette idée-là. Et ce cantigas, en fait, il raconte, c'est un peu un hymne à Marie, mais faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est aussi un hymne à la nature, finalement, à la création. Donc voilà, c'était l'idée autour de cet hymne.
Et nous l'écoutons et on se retrouve après. Thank you.
Thank you.
peut-être même quatre. Est-ce que la même passion pour la nature, la végétation, sont ce qui vous a permis à constituer ce spectacle, cette proposition ?
Alors, autour de ce projet, ce qui est à préciser aussi, c'est que on vient d'enregistrer l'album qui va sortir à l'automne. Et avec cet album vont sortir aussi des podcasts, en fait, des petits enregistrements, parce que au fur et à mesure de mes rencontres avec tous ces professionnels autour du végétal, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses vraiment intéressantes à raconter. Et donc, il va y avoir des petits entretiens, comme ça, entre 20 et 45 minutes. Gilles Clément, notamment, qui est un paysagiste jardinier qui est assez connu. Thierry Thévenin, qui est un botaniste. Je suis allé en Suisse aussi rencontrer un herboriste. On a commencé par interviewer les musiciens. Donc on aura aussi l'entretien avec Michel Godard. Au tout début de ce projet, ils avaient à peine une idée. Je leur avais dit « Venez, on va travailler autour du jardin ». Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Et donc, on a interviewé Ihab Radouane et puis Michel Godard. Et ça m'a permis d'écouter ensuite leur approche de la nature qui est très, très sensitive, presque mystique, finalement. Ils n'ont pas de jardin, mais ils ont un rapport à la nature qui est très immédiat, qui est très musical, du coup. Et donc, on a commencé à travailler ensemble avec très peu de mots. Et finalement, on a cette envie que la musique fasse vraiment partie du quotidien. En fait, c'est ce que je me suis rendu compte. On en parlait encore tout à l'heure avec Ihab, que la musique puisse être avec nous au quotidien, chaque jour. C'est pas un art élitiste. Moi aussi, avec cette voix de contre-ténor que j'ai, on a tendance à la mettre un peu sous cloche. Hein. C'est la voix des anges. Et moi, j'aime ce côté populaire, mais dans le bon sens du terme, où on partage la musique au quotidien. Donc, il n'y a pas simplement des concerts. Moi, il m'arrive aussi de faire des moments de musique au lever du jour, par exemple, hein, dans des chapelles avec un public, là aussi. Mais du coup, on partage la musique différemment. Et je crois que c'est ce rapport à la nature-là qu'on a, qui est un rapport plus à la création, finalement. À l'émerveillement aussi, le jardin imaginaire, ça vient aussi faire référence à la science telle qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge, où en fait, on ne validait pas une hypothèse scientifique sans l'émerveillement. L'émerveillement, l'imaginaire, est une base, en fait, au même titre que la science. Et c'est un peu cette idée-là. Donc, je pense qu'on a ce rapport à la nature qui est dans l'observation, l'écoute, l'émerveillement. Et ce qui fait un peu cette alchimie, après, lorsqu'on joue tous les trois ou même tous les quatre avec Pierre Bayot, parce que avec toutes ces musiques du monde qu'il explore, c'est pareil, il a une ouverture assez grande par rapport à ce rapport à la nature.
Ces compositions, en général, on parlera peut-être de vous quatre. Est-ce que cela vous est arrivé de vous positionner au milieu de la nature pour y déceler des sons et d'essayer de les reproduire de...
Alors l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire les rendez-vous au jardin début juin et dans plusieurs communes, et notamment dans des jardins privés en fait qui étaient ouverts pour l'occasion. Et là, on a joué, effectivement, notamment avec Ihab, hein, Oud. Et en fait, la nature nous rejoint, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent chanter avec nous. Le merle est un très bon imitateur. On a les pivers, les piquets-pêches, on a les pinsons d'Europe, pinsons des arbres. Il m'est arrivé une expérience en Chartreuse où, justement, là, j'étais seul, pour le coup, mais je répétais un peu ce répertoire avant qu'on se retrouve. Et en fait, j'ai un pinson qui m'a rejoint, c'était au printemps, c'était au mois de mai. Et puis deux, et puis trois, puis il y avait un buisson de pinsons à côté de moi et qui vraiment... Alors, je ne vais pas dire qu'on communiquait, mais en tout cas, il y avait un échange, il y avait des réactions de la part de ces oiseaux. Je me suis intéressé aussi, j'ai écouté récemment une ethnologue, mais qui travaille beaucoup avec les cétacés, avec les mammifères marins, et qui a expliqué que, justement, on a toujours cette idée, nous, en tant qu'êtres humains, les autres animaux viennent vers nous, ils se rapprochent. On a l'idée que c'est le désir de communiquer. Elle explique que c'est souvent le désir de connaître qui est là et de venir s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Voilà, c'est plus ça. Nous, après, par anthropomorphisme, on est là à se dire, oh, il est venu communiquer avec moi. Elle n'a pas cette prétention-là, mais elle dit, en tout cas, ce qu'on remarque des animaux, des mammifères, c'est qu'ils vont s'approcher par curiosité aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de danger pour leur propre population à eux. Donc, il y a un peu ça. Mais en tout cas, là, c'est vrai que les expériences comme ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a... Bah, encore hier, on était dans un jardin, dans un parc, donc au pied d'Aubenas. Et on était au coucher du soleil et il y a des oiseaux qui ont joué avec nous et qui sont parfaitement en accord en fait avec ce qui se joue. Donc c'est à ce moment-là, c'est vrai que c'est des très beaux moments à vivre qu'on peut faire partager justement avec le public. Donc ce jardin imaginaire, il se joue là pour le coup autant dans des églises, des temples ou des salles de spectacle, mais il y a vraiment le souhait de partager ça au jardin et dans la nature.
Il faudra trouver des saisons adaptées.
Alors, des saisons adaptées, puis en général, on essaye de trouver toujours un plan B, hein, on va dire, si jamais la météo n'est pas au rendez-vous, pour qu'on n'annule pas l'événement et que les gens puissent vivre l'événement avec nous à la date prévue.
Alors, les propositions se présenteront sous quelle forme ? Combien de morceaux de musique seront proposés à l'écoute ?
Dans les programmes pour ce concert,
oui.
On a une dizaine de titres. Et puis, dans ces titres-là, bah, par exemple, au niveau des textes, on a par exemple le cabaret des oiseaux. Alors le cabaret des oiseaux, c'est le surnom du carder, qui est une plante qu'on trouve beaucoup dans le Vercors, dans nos régions. C'est une plante au niveau médicinal dont on utilise la racine. On l'utilise notamment pour les problèmes respiratoires. Et le cabaret des oiseaux, il s'appelle comme ça au niveau populaire parce que justement dans les périodes très sèches comme ici, on se rend compte si on se lève très tôt. Alors là, le quart d'heure, il a un peu séché maintenant, mais en tout cas, le mois dernier, il faisait très chaud aussi. Et la rosée du matin vient se mettre à la base des tiges où il y a des grandes feuilles très larges. Et donc, ça fait des bassins en fait de rosée pour les oiseaux. Et effectivement, on voit les passereaux au petit matin qui viennent faire un espèce de cabaret autour de cette plante qui peut faire 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Et ce cabaret des oiseaux, il reprend un texte catalan populaire du 18e siècle qui s'appelle Le Chant des oiseaux. Et notamment, on a Pablo Casals, le violoncelliste catalan, qui a composé sur cet air. Et cet air est même devenu presque un hymne national en Catalogne. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à la Catalogne et à ce compositeur. On a un autre titre d'ailleurs qu'on écoutera ensuite qui s'intitule le marub. Le marub, c'est une plante qu'on trouve au Moyen-Âge dans tous les manuscrits, qui est vraiment importante parce que cette plante à l'époque était l'antidote de l'aconite. Il faut savoir qu'il y avait une habitude un peu inquiétante au Moyen-Âge qui était une pratique qui était avérée, c'était l'empoisonnement. Et l'empoisonnement à l'aconite. Et on pensait que le marub était une antidote à l'aconite, donc on en consommait énormément. C'est une plante qui est de la même famille que la menthe ou la verveine ou la mélisse. Et donc il y a un petit clin d'œil, parce que le marub, donc, vous l'entendrez, je l'ai mis en regard avec un texte italien qui s'appelle la Passaglia della Vita, qui est la passacaille de la vie, qui est un chant populaire italien, et qui nous dit tout simplement « pour vivre, on a besoin de mourir ». Donc ça fait un peu le clin d'œil avec le marub et avec cette histoire autour de la mort. Et la passacaille, c'est une danse macabre qui est pratiquée au Moyen-Âge en Espagne, en Italie. Et c'est vraiment, c'est danse des morts, hein, c'est un peu presque chamanique en fait. Hein. Les gens passent dans les rues et dansent et chantent autour de ces chants populaires. Et puis, finalement, quand on a travaillé à l'ancien monastère de Sainte-Croix, lorsque Yab était en train d'accorder son oud, il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chantonner en arabe. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, mais Yab, tu chantes, en fait. Il dit, oui, mais chez moi, dans ma tradition, de toute façon, tous les musiciens chantent. Et on a de la poésie, arabe. Et donc, je lui ai expliqué ce que racontait ce texte. Il m'a dit, ah, moi, ça me fait penser à un poète persan, poète du 11e siècle, Omar Khayyam, qui est un grand poète persan. Il dit, je pense à un texte, un poème qui raconte ça, qui raconte un peu la même histoire. Finalement, c'est un poème qui s'appelle Le Destin et qui nous parle effectivement de tous ces biens matériels qu'on veut amasser dans notre vie. Puis finalement, le jour où on meurt, ben, on s'en va pas avec, en fait. On s'en va les pieds devant et avec quoi on part, voilà. Et qu'est-ce qui est important dans la vie? Et finalement, ce chant, il mêle le chant arabe en égyptien de Yab, qui est originaire du Caire, et puis ce chant en italien. Voilà. Et cette création, elle s'est faite comme ça, en fait. Là, ce que je vous raconte, ça s'est passé presque en 5 ou 10 minutes, finalement. Hein. Ça a été très rapide. Et ensuite, on a essayé. Le serpent de Michel Godard est venu avec. Et puis, ça donne ce chant qui est très, très étrange et qui vient mêler l'Orient à l'Occident. Voilà, donc, on trouve ça aussi dans le répertoire. On a d'autres plantes encore qui viennent. Alors oui, effectivement, on a une plante aussi un peu emblématique qui est le millepertuis. Le millepertuis qui est une plante en fait du soleil, hein, puisque au niveau médicinal, on vient faire des macérations dans l'huile de cette fleur hein, qui est vraiment le soleil et qui va redonner du soleil dans le cœur. Et j'ai pensé là à une compositrice qu'on connaît ici dans notre région, qui est la comtesse de Die. Et la comtesse de Die, on a 5 chants d'elle. On n'en a que 2 dont on a la composition musicale. Et la comtesse de Die, on connaît très peu de choses sur elle. Il y a 2 lignes en fait sur sa vie. On sait par hypothèse qu'elle était la femme de Guillaume de Poitiers ou de Guillaume de Valentinois au XIIIe siècle et qu'elle était amoureuse de Rimbaud d'Orange. Et apparemment, cet amour-là n'était pas réciproque. Et donc, elle a écrit des poèmes. Et toute cette souffrance, on va dire, lui a fait écrire des très, très beaux poèmes. Et je me suis dit que le millepertuis, justement, pour redonner de la joie à la comtesse de Die, ça serait intéressant. Et donc, on a fait une version de ce poème qui est, je vais dire, à l'opposé de ce côté très lancinant et presque dépressif qu'on a dans l'interprétation de la comtesse de Die. Et on en a fait un chant extrêmement joyeux. Voilà.
Je voulais savoir, par rapport à ces propositions de textes, est-ce que le public aura peut-être en main le recueil de ces textes qui seront chantés ou...
Alors, je suis en train de préparer pour la sortie de l'album un recueil qui va reprendre effectivement tous ces textes et qui va raconter un peu l'histoire des compositions, comment elles se sont faites, et puis l'histoire, un peu d'histoire au niveau de l'origine, en fait, de l'origine de ces textes et de ces poèmes. Parce qu'effectivement, il y a... Moi, on le dit quand j'étais à Noirlac, effectivement, on disait que j'étais finalement avec ce jardin, un chanteur, défricheur, chercheur. Mais c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'aime transmettre aussi. Alors, on peut en parler un peu dans le concert, mais le but, le propos, c'est plutôt la musique et de servir le texte. Et même si le public ne comprend pas le texte, il le ressent.
Il s'en imprègne.
Voilà, il s'en imprègne. C'est vraiment le but. C'est cette poésie-là qui passe par la musique.
Alors, selon certaines programmations, toi, tu es désigné contre-ténor ou parfois baryton. Quel registre peut-on préciser pour ces représentations? C'est vraiment contre-ténor, hein?
Oui, alors, en fait, j'ai eu l'occasion d'abord de travailler ma voix de contre-ténor lorsque j'étais adolescent. Et puis souvent, les professeurs de chant attendent la mue chez les garçons pour voir si cette voix aiguë va rester. Il se trouve que je l'ai gardée. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres professeurs de chant qui m'ont dit « Mais un contre-ténor, en général, il y a une bonne base de baryton. Un chanteur baryton peut aller explorer sa voix de contre-ténor. » Du coup, pendant des années, j'ai travaillé ma voix de baryton sur d'autres répertoires, en musique, notamment musique romantique du 19e, que je ne connaissais pas du tout. Et puis finalement, de travailler cette voix de contre-ténor et de voix de baryton, finalement, il y a une voix de ténor qui se forme aussi. Donc en fait, j'utilise les 3 registres de voix dans ce que je compose. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'aime la composition, parce que je n'ai pas trouvé de compositeur pour l'instant, ni de composition existante qui propose à un chanteur d'aller dans ces 3 registres. Alors, on le trouve dans d'autres musiques. Hein, si on va écouter de la musique de Led Zeppelin, on a un chanteur qui passe du baryton au contre-ténor, par exemple. Mais c'est beaucoup plus rare dans les musiques, dans les compositeurs contemporains. Donc, s'il y a un compositeur contemporain qui m'écoute, d'ailleurs, moi, je suis tout à fait partant pour aller faire cet exercice, parce que c'est quand même un exercice, une gymnastique vocale qui est assez physique. Donc, l'écriture doit être aussi... Je ne cherche pas à faire forcément de la virtuose. Hein. Comme je disais, c'est le propos poétique qui passe. Donc, on peut utiliser comme un instrument. On va utiliser tous les registres de l'instrument. Et après, d'aller écrire pour justement cet instrument qui va du baryton au contre-ténor, pour moi, c'est un plaisir et c'est très intéressant. Puis, ça permet de montrer au public aussi que vraiment, la voix, c'est comme un instrument. On peut aller l'explorer et on n'a jamais terminé. Je suis allé travailler avec des moines de Saint-Pétersbourg, avec des chanteurs soufis au Maroc ou en Inde, des chanteurs indiens aussi classiques. Et c'est vrai que du coup, on voit comment ils peuvent explorer la voix, parce que finalement, leur finalité n'est pas la voix ou la musique. Hein. La finalité, elle est plus mystique. Et du coup, ils vont travailler la technique sans en parler, mais c'est des excellents techniciens de la voix et du chant.
J'ai reçu la semaine dernière, dans le cadre de Stabat Mater, Lisa Hutt, Oriane Ponce et oui. Sarah Pawen pour leur concert. Lisa Hutt est donc accordéoniste classique et elle compose elle-même de la musique contemporaine.
Oui.
Donc elle s'adapte. Tu la connais, j'imagine?
Je la connais de nom, mais on ne se connaît pas personnellement.
Elle est plutôt sur Lyon, je crois.
Hein. Mm-hmm.
Voilà. Est-ce qu'il existe un site internet aussi se rapportant à tes propositions?
Oui, alors c'est tout simplement le site avec mon prénom et mon nom, hein, Samuel Catiau, CADTIAU.com. Et dessus, bah, en ce moment, on peut découvrir, écouter et découvrir des vidéos autour du jardin imaginaire.
Et puis, il y a les dates mentionnées de tes prochaines dates.
Il y a tout l'agenda en fait, de cette saison. Donc, on peut voir les dates, les différentes dates que je fais en France cette année autour de ce programme.
Voilà, l'émission se termine et nous quittons donc avec cette deuxième proposition dont tu as commencé à parler.
Voilà, le Marub, qui est effectivement basé sur un texte italien, chant populaire italien, et puis un poème du poète persan Omar Khayyam.
Samuel, merci beaucoup d'être venu sur Erdua.
Merci Yves.
Et puis je te souhaite une bonne succession et puis un bon accueil pour ces prochains concerts.
Ben, merci à toi.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الحار وفاة البشر هبوا املوا كأس الطلاق قبل أن تفعموا كأس العمر كف القدر في العيش إلا الشقاء يا حسرة إن حان حين ولم يتح لفكري حل لغز القضاء
Bisogna morire, bisogna.